Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous êtes bien sûr Radio Grande Contrôle.
Littérature et bière glacée.
On lit, on voyage, on revient.
Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
Grande Flore Café par Hugues Robert.
Bienvenue, on est très heureux de vous retrouver pour cette troisième émission consacrée à l'édition contemporaine. Après Les Forges de Vulcain et Antidata, on accueille donc Asphalte aujourd'hui avec Claire Duvivier, donc l'une des deux fondatrices.
Bonjour.
Bonjour Claire. Ça nous fait particulièrement plaisir d'accueillir Asphalte parce que, comme vous le savez peut-être, donc la librairie Caribe est installée maintenant depuis quelques jours à Grande Contrôle. C'est une aventure qui avait démarré il y a bientôt 8 ans et la toute première soirée consacrée à la littérature chez Caribde avait été avec un auteur Asphalte, donc Tommaso Pinchot, dont on parlera certainement tout à l'heure. Donc c'est un grand souvenir, parce que Tommaso Pinchot est un auteur haut en couleur, qui est également un peintre absolument étonnant. Et donc c'est grâce à Asphalte qu'on avait inauguré en fait ces rencontres, qui sont devenues ensuite depuis une sorte de trademark Caribde. Donc Claire, en fait, je m'aperçois que Asphalte fête ses 10 ans cette année.
Non, l'année prochaine. On a commencé à publier en mai 2010, donc on est prêt pour mai 2020 pour fêter ça comme il se doit.
D'accord, oui, en effet, vous aviez publié en 2010, mais vous aviez créé
On a créé la structure en 2009, en juillet 2009, donc oui, c'est bientôt sur le papier les 10 ans d'Asphalte en tout cas.
D'accord. Alors, est-ce que tu nous raconterais un petit peu le début de cette aventure, donc il y a presque 10 ans
Oui, il y a presque 10 ans, il y a encore avant ça en fait, un petit peu plus tôt, en 2005, j'ai rencontré Estelle Durand à la fac, donc Estelle Durand, mon associée. En fac, on étudiait l'édition à la Sorbonne, et effectivement, comme tous les étudiants, on avait cette espèce de grand rêve de « oui, mais quand on va faire notre boîte, ça sera différent, on va créer notre maison », enfin, et autres rêveries de jeunesse. Hein. Et avec Estelle, on est resté en contact, puisqu'on est devenus amis, on a fait un peu chacun de notre côté notre carrière. Estelle était dans une revue de sciences humaines, moi j'ai travaillé dans l'édition médicale, puis dans l'édition de science-fiction. Et en fait, au bout d'un certain temps, en 2008, début 2009, on avait fait, peut-être pas pratiquement le tour, mais on avait envie de choses un peu nouvelles. On avait vraiment envie de se lancer dans une aventure. On s'est dit, on s'était dit qu'on le ferait plus tard, peut-être, plus 40 ans, quand on aurait plus de bouteilles, plus un carnet d'adresses plus fourni. Mais finalement, peut-être que c'est maintenant le bon moment. Peut-être que c'est maintenant le bon moment de se lancer. Donc, réfléchissons, mettons-nous autour d'une table, faisons le tour de nos atouts, de ce qu'on peut mettre en avant et voyons si c'est possible. Donc, on y a beaucoup réfléchi, autour de tables de terrasse de café, notamment. Et finalement, on s'est lancé et les premiers titres ont été publiés en mai 2010.
Alors très vite, une des particularités d'Asphalte, alors pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas cette maison, donc je vous encourage vivement à vous précipiter sur les livres parce qu'ils sont quasiment tous, il faut bien le dire, passionnants. Mais très vite, on s'aperçoit que ce qui est pas si évident en fait pour une jeune maison, il y a une identité assez forte, une identité aussi bien sur les contenus, on va en reparler, mais dès le départ, une identité formelle assez travaillée avec vraiment, enfin, un codage graphique bien particulier. Et puis, dès l'origine ou presque, me semble-t-il, cette très belle invention qui est de demander en fait aux auteurs de construire eux-mêmes, de proposer la playlist en fait qui va accompagner potentiellement la lecture du livre. Comment c'est venu cette chose quand même assez particulière?
Alors la playlist, c'était vraiment les idées qu'on avait au début. On s'est dit comment on pourrait se démarquer, offrir le petit plus, l'équivalent du bonus DVD en quelque sorte. On s'est dit, ce qui serait bien, c'est quand même, dans tous les textes qu'on a choisis pour l'instant, la musique est quand même hyper présente. Ce serait vraiment sympa de demander aux auteurs qu'est-ce qu'ils écoutaient justement pendant l'écriture ou qu'est-ce qui les influence. Et c'est comme ça que l'idée de la playlist est née en fait, tout simplement. Et en général, les auteurs sont assez enthousiastes de faire leur bande originale de romans. C'est un moment qu'on aime beaucoup dans l'élaboration des livres.
Oui, c'est quelque chose qui tout de suite a donné effectivement un cachet assez particulier à Asphalt. Alors, je sais que souvent tu as été amené en presque 10 ans donc à définir un petit peu. Donc, ce que d'ailleurs je crois, Estelle et toi, vous n'aimez pas appeler la ligne éditoriale, mais plutôt un état d'esprit en
ou
fait.
Ou l'espace en fait. Enfin, en plus, une notion d'espace pour que ce soit un petit peu plus vaste. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. Dans le côté ligne éditoriale, il y a un côté très, très arbitraire, très droit, qui nous plaît peut-être pas forcément. C'est plus un espace éditorial ou plus une intersection d'espace, puisque finalement Estelle et moi on n'a pas tout à fait les mêmes goûts littéralement parlant, et finalement Asphalt c'est l'intersection de nos goûts, donc c'est pour ça qu'on retrouve un peu tout ce qui est l'attachement à la musique, l'attachement au voyage, aux contre-cultures, évidemment à la ville, donc ça se voit dans le nom de la maison. On aime quand la ville est plus qu'un décor, devient un personnage. Après, c'est pas des éléments qu'on va forcément tous retrouver dans chacun des livres Asphalt, parce que c'est pas une recette de cuisine non plus, mais c'est des choses comme ça qu'on retrouve un peu de publication en publication.
Alors, il y avait eu cette chose, qui dès l'origine, une chose fascinante. On va reparler de plusieurs, de ces livres, pas tous, parce que bon, au bout de 9 années de publication, ça commence à faire quand même pas mal de textes. Mais on en citera et on parlera de plusieurs d'entre eux. Mais je me souviens également d'un des premiers contacts que j'ai eu avec Asphalt. C'était ces recueils, donc qui sont aussi devenus une marque de fabrique de la maison, qui ont été, qui viennent, me semble-t-il, au départ d'une maison américaine. D'Akashic, qui sont en fait des recueils de nouvelles consacrées à une ville, donc des nouvelles alors noires, et qui donc où on trouve bon, des villes, je dirais, connues, de Washington noire. Il y a eu ensuite Paris noir, et puis des villes, enfin plus inattendues, des villes justement dont on ne sait pas nécessairement, en tout cas vu de France, qu'elles ont toute une richesse dans le noir. Et alors, une ville, ça peut être parfois un pays. Je pense à le magnifique recueil Haïti noir, par exemple. Alors, me semble-t-il, il y a eu un moment une bascule, c'est-à-dire que la collaboration avec Akashic se passait suffisamment richement et bien pour que Asphalt devienne force de proposition sur des équivalents mais francophones.
C'est tout à fait, oui. En fait, cette collection, on l'avait repérée au moment où on était en train de réfléchir sur ce qu'on voulait faire chez Asphalt. Je crois que Estelle était tombée sur le London noir, parce qu'il était dirigé par Cathy Unsworth, une auteure qu'elle aime beaucoup et qu'elle suit. Donc, on s'était penché sur le Londres noir, et du coup, on s'est penché sur la collection en entier, on s'est dit mais c'est génial, c'est vraiment rassembler des auteurs d'un terroir littéraire et leur demander d'écrire sur leur ville. Chacun un quartier différent, comme ça il y a un côté un peu structure de guide de voyage, mais avec des textes de fiction. Sachant que ça permet évidemment de mélanger des auteurs de noir, des auteurs hors noir, des auteurs débutants, des auteurs connus, donc c'est vraiment un super terrain de jeu. Donc effectivement, on avait pris contact avec Akashic à ce moment-là pour faire ses recueils en français. On a vu qu'il existait un Paris noir, qui nous a beaucoup plu à toutes les deux, qui était dirigé par Aurélien Masson, qui était à l'époque à la série Noire. On a constaté qu'il n'était pas publié en français, c'est-à-dire que ce recueil écrit en français était publié en anglais, mais encore inédit dans sa langue originale. Et c'est ainsi qu'on a commencé par publier Paris Noir. On a fait suivre par Londres Noir, Los Angeles Noir, d'autres destinations comme ça. Et c'est vrai que bon, on s'amusait beaucoup à faire ces anthologies, mais on récupérait les textes auprès d'Akashic. Il y avait une petite frustration d'éditeur. Au bout d'un moment, on s'est dit, on aimerait bien quand même faire le nôtre. Et au bout d'un moment, on a été démarché par Cédric Favre, qui connaît bien la maison, qui a chroniqué pas mal de nos ouvrages, qui est de Marseille, et qui nous a dit, les filles, franchement, il faut absolument que vous fassiez un Marseille noir, c'est obligé. Enfin, là, c'est vraiment la ville qui s'y prête le mieux. Et on y a réfléchi, on a contacté Akashic, on leur a dit, bon, est-ce qu'éventuellement, si on faisait un Marseille noir, vous nous suivez ? Évidemment, et ils vont faire en anglais aussi. Et donc, du coup, on a commencé, en fait, ces anthologies de notre propre patte, on va dire, avec Marseille Noire, qui a très, très bien marché. C'est une des meilleures ventes de la collection. C'est la meilleure vente de la collection, même. On a ensuite enchaîné sur Bruxelles Noire, qui a été dirigé par Michel Dufresne. Et aussi Buenos Aires Noir, on avait mis en contact Ernesto Mayo, donc le.
C'est vous qui l'avez piloté, Buenos Aires Noir.
Oui, voilà, D'accord. Donc il a été publié en français avant d'être publié en anglais, et il n'est toujours pas publié en espagnol de façon bien mystérieuse. Voilà, donc là, le dernier né de la collection, c'est Banlieue Parisienne Noire, qui est sorti le mois dernier, dirigé par Hervé Delouche. Et là, effectivement, on est dans cette période extrêmement appréciable de promotion du recueil, où tous les auteurs se sont emparés du projet, où il y a beaucoup d'intérêt autour de ce livre. Et c'est vrai que c'est un moment particulièrement exaltant pour nous.
Alors, une des choses impressionnantes aussi chez Asphalt, moi je ne connais pas évidemment du tout par cœur, loin de là, l'édition contemporaine, mais je sais que souvent des maisons qui se créent ont évidemment des plans, des comptes prévisionnels, et puis il y a le fait que mettre d'emblée le pied dans la traduction, en fait, d'aller chercher de la littérature étrangère à traduire en français, ça rajoute une barre, en fait, qui est le coût de la traduction, qui est tout sauf négligeable. Et du coup, je trouvais ça assez fascinant, donc une jeune maison comme ça qui en 2010 décide de partir directement sur du texte en fait étranger, des traductions en français.
Nous, l'idée, dès le début, on avait envie de faire les deux, faire à la fois de l'étranger et du français. On a tardé à recevoir des textes qui nous plaisaient vraiment, des manuscrits français qui nous plaisaient, francophones, on va dire plutôt, qui nous plaisaient vraiment. Donc, effectivement, on s'est vraiment lancé à corps perdu dans la traduction. Si c'était à refaire, on n'aurait peut-être pas tout refait exactement de la même manière. Mais du coup, ça nous a permis de constituer assez rapidement un catalogue qui était vraiment centré autour de la littérature traduite. Ce qui implique tout un tas de tracas, subventions, et autres, parce qu'effectivement, oui, c'est économiquement, c'est assez difficile. Après, la chance qu'on a eue, c'est que à cette époque-là, donc début des années 2010, je pense qu'il y avait un intérêt assez fort pour la littérature traduite. Après, ça fonctionne par cycle. En ce moment, j'ai l'impression que c'est un peu plus difficile pour la littérature traduite. C'est quelque chose qui va repartir, mais il y a des cycles comme ça. Il se trouve que nous, depuis peu, on a développer la partie francophone du catalogue depuis 2014, quand on a commencé à publier Timothée de Meillet, puis ensuite en 2016, le deuxième auteur français Emmanuel Villain. Donc maintenant, on est à 4 ou 5 auteurs francophones. Donc pareil, cette section du catalogue, elle est amenée à se développer. Ça nous permet un peu d'équilibrer le catalogue, en fait, entre traduction et littérature française.
Mais ce qui était assez frappant, c'est que dès l'origine, alors je pense surtout à la partie, parce que c'est ça qui m'a le plus frappé, même si effectivement le premier auteur dont j'avais envie de parler est un Italien et pas du tout un Latino-Américain, donc Tommaso Pinchio. J'aimerais bien savoir comment vous l'avez... Alors Tommaso Pinchio, c'est peut-être pas le meilleur exemple de ce que j'allais dire, parce que lui était déjà en fait
Oui, moi j'avais lu ce qui était déjà publié en français, j'avais beaucoup aimé, que ce soit le roman sur Kurt Cobain ou...
Un amour d'outre-monde, hein,
chez voilà, ouais. J'avais vraiment adoré Un amour d'outre-monde, j'avais vraiment envie de voir ce qu'allait faire l'auteur. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que Tommaso Pinchio a écrit un texte dans Rome Noir. Et effectivement, en travaillant sur Rome Noir, je me suis dit, mais je me souviens de cet auteur, c'était vraiment bien ce qu'il faisait. Allons voir ce qu'il a fait depuis et qu'est-ce qui n'est pas traduit. Et effectivement, en fait, il n'y avait pas eu d'autres textes traduits. Et ce Cinecittà, qui est un roman plus ou moins adapté de la nouvelle qu'il avait écrite pour Rome Noir, du coup, ça nous a paru le texte idéal pour relancer l'auteur en France.
Alors, il est un petit peu atypique, Tommaso Pinchio, parce qu'effectivement, tu mentionnais tout à l'heure que, voilà, il est, enfin, moi j'ai trouvé, enfin, je trouve que c'est un auteur qui est passionnant, mais qui est en effet peut-être plus difficile à classer en termes de genre qu'un certain nombre d'autres auteurs Asphalt. C'est que, Mémoire de mon crime atroce, Cinecittà, ça pointe vers le noir, mais c'est vrai que d'autres de ses textes sont pas du tout, des romans noirs, sont autre chose. Je pense aux Fleurs du Karma, par exemple, qui pourrait être dans une collection de science-fiction quasiment. Enfin, il y a vraiment un côté mystérieux en fait dans la façon dont Tommaso Pinchio travaille. Et est-ce que ça vous a pas justement, toi ou Estelle, posé problème en disant il va être un peu inclassable pour nous?
Oui, on a beaucoup d'auteurs comme ça qu'on a un peu du mal à classer. Je rapprocherai Tommaso Pinchio d'un autre auteur qu'on publie, c'est Antonio Cherchineschi. Ou pareil, il y a toujours une accroche qui peut faire, enfin une accroche de genre. Soit polar, soit science-fiction, soit western, dans le cas d'Antonio.
Donc CF et Avalé du Sable, c'est ça, ouais.
Oui, et Malgré tout, la nuit tombe, qu'on a publié au janvier. Et effectivement, c'est vrai que c'est des auteurs qu'on aime bien, c'est une littérature qu'on aime bien, c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de Sud-Américains, c'est quelque chose qui est assez fréquent là-bas, le côté le brouillage des genres. Après, oui, c'est sûr que commercialement, en France, c'est toujours un peu compliqué, quand on est un peu dans le polar, un peu dans le roman social, un peu dans l'imaginaire. Moi, voilà, je suis assez confiante dans nos choix éditoriaux. Je sais qu'il y a des lecteurs pour ça et qui suivent ces auteurs-là. Après, oui, ça peut poser des difficultés, quoi.
Une des choses, effectivement, donc on mentionnait cet aspect latino-américain, que moi, une des choses que je trouvais surprenante, c'est cette espèce de foi, de confiance que vous avez, c'est-à-dire que vous allez dénicher des auteurs qui sont généralement, donc à part quelques exceptions, mais sont généralement parfaitement inconnus en France, qui sont, alors... à leur échelle connue, très connus ou parfois en cours de développement dans leur pays d'origine, et puis vous leur donnez très vite une stature en France, parce que ça donne le sentiment que vous les suivez, vos auteurs. C'est-à-dire que vous ne restez pas avec un coup d'essai, et puis bon, ça marche pas, non, vous en publiez plusieurs. Quoi,
enfin, ça marche pas toujours, il faut le dire. Mais effectivement, on a eu un gros coup de chance, et de tomber sur deux auteurs, un Brésilien, un Chilien, qui ont connu du coup cette belle histoire. Donc le Chilien, c'est Boris Kersia. Boris Kersia, c'est pas un inconnu au Chili, mais il est connu là-bas parce qu'il est cinéaste, parce qu'il est acteur, parce qu'il est réalisateur. Et effectivement, il avait écrit un polar qui est pas passé complètement inaperçu au Chili, mais disons que bon, c'était pas forcément pour ça qu'il était connu. Nous, on est tombé sur ce livre par un traducteur. On l'a publié. Léo de Santiago avait eu le premier de la trilogie, avait eu un bon accueil. Puis ça a vraiment explosé, on va dire, avec le deuxième Temps de chien, qui a reçu le Grand Prix de littérature policière. Et là, on a publié du coup le troisième volet de la trilogie, La Légende de Santiago, donc qui a été très attendu. Et là, c'est vraiment super, parce qu'effectivement, du coup, les romans ont été... en fait, c'est ça aussi, c'est ce succès en France qui a poussé Boris à continuer la trilogie par un deuxième, puis ensuite par un troisième, qui sont maintenant publiés au Chili aussi, mais qui ont été publiés après l'édition française. Donc c'est assez intéressant quand ça se passe comme ça dans l'autre sens. Et l'autre auteur, c'est Dir Augusto. Lui, il nous avait été présenté par un agent. Quand on a publié les deux premiers, c'était Belém et Moscou. Donc déjà, on en a publié deux carrément coup sur coup, ce qui était un peu, on va dire, un peu audacieux, entre très gros guillemets. Enfin voilà, si c'était à refaire, on n'aurait peut-être pas fait les choses de la même manière. Mais il y en avait un des deux qui était extrêmement court, extrêmement violent. On s'est dit, bon, ça va pas être facile.
Ça c'est Moscou.
Voilà. Mais... c'est un autre. En plus, c'était des textes qui avaient été publiés depuis un certain nombre d'années, donc c'était pas non plus la nouveauté brûlante. Et puis, il y a eu un bon accueil pour Belém. On a continué à publier l'auteur parce qu'on aimait vraiment ce qu'il disait, sa façon de le dire, son style vraiment à l'os, hein, et une violence à la fois dans le contenu, dans l'intrigue, mais aussi dans la façon de la raconter. On a continué avec Nid Vipère, hein, et là, c'est au quatrième titre, Psyka, que ça a vraiment décollé. Ça a vraiment décollé en France. On a vraiment eu beaucoup d'intérêt pour ce titre-là, bah, notamment du fait
qu'il s'est remis en Guyane. Hein.
Voilà, oui, je pense que ça a dû aider. Mmh. Et pourrait dire, parallèlement, au Brésil, lui, en fait, le fait d'avoir été publié en France, ça a attiré l'attention sur Psyka au moment de la sortie au Brésil de Psyka. Et lui, ça lui a aidé, ça l'a aidé à connaître, on va dire, à passer du stade de célébrité régionale, parce qu'il était surtout connu, il était publié par un éditeur régional dans le Pará. Il était surtout connu à cette échelle-là, enfin, à cette échelle, comme si c'était petit, le Pará, c'est immense, hein, mais ça l'a fait accéder à une célébrité vraiment nationale. Pour le coup, il y a eu vraiment énormément d'attention sur la sortie de Psyka au Brésil de la part de quotidiens nationaux, ce qui n'était pas forcément le cas avant pour lui.
C'est vrai que c'était assez fascinant de découvrir, donc, grâce à Asphalt et grâce à Edir Augusto, cet état du Pará, cette gigantesque métropole qu'est Belém, en fait, donc proche de l'embouchure, en fait, de l'Amazone, qui est infiniment moins connue que d'autres grandes villes brésiliennes, enfin du grand public français, et qui a une position, je dirais, presque stratégique dans les réseaux criminels, en fait, de par sa position géographique, qui alimente évidemment le travail d'Edir Augusto. Et ensuite, il a une capacité de trouver l'écriture d'une violence fondamentale, en fait, qui laisse assez pantois, quoi. Je me souviens que dès Belém, bien entendu, c'était un choc en disant, mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est raide, quoi.
Enfin, mais surtout que Belém, c'est le plus classique, entre gros guillemets, dans sa production. C'était le premier, en plus un roman assez long, alors que les autres sont beaucoup plus courts. C'est plus linéaire, c'est plus... l'écriture est plus riche, plus... elle foisonne un peu plus, alors qu'effectivement, livre après livre, finalement, on dirait presque que ces romans deviennent de plus en plus courts. Bon, c'est pas tout à fait le cas, puisque Moscou est vraiment très court et c'était le deuxième. Mais effectivement, comme s'il taillait dans le vif pour enlever vraiment tout le gras, tout ce qu'il y avait en trop pour lui, pour arriver vraiment à l'essentiel. C'est vraiment assez fascinant de le suivre de roman en roman pour voir comment il fait évoluer ce style pour en arriver, voilà, au Psyka, avec le côté des phrases qui sont comme des coups de machette, finalement, quoi.
Oui, qui arrive, effectivement, je suis entièrement d'accord. Dans Psyka, il y a une espèce de poésie souterraine qui commence à apparaître, en fait, dans son écriture, alors même qu'on parle de choses toujours aussi criminelles et atroces. Enfin, alors là, pour le coup, absolument sans phare, hein. On peut dire que D'Agosto ne prend pas de gants, en fait, avec les sujets dont il traite, c'est-à-dire l'extrême violence de ces cartels, de ces filières de trafic de drogue, d'êtres humains, d'armes, enfin d'un peu de tout ce qu'on veut, et qui infiltre en grande profondeur, en fait, une partie de la société brésilienne. Enfin, pas uniquement, mais en tout cas, ce dont il témoigne, en fait, est particulièrement saisissant, quoi. Il le fait avec beaucoup de...
Et surtout qu'en littérature brésilienne noire, on aurait tout de suite tendance à penser aux favelas, Sao Paulo, à Rio de Janeiro. Et là, finalement, on nous entraîne dans un Brésil qu'on connaît peu, finalement. Donc c'était ça aussi qui nous plaisait, cette façon de changer un peu notre regard sur le Brésil et de montrer autre chose que l'attendu.
Mais avant de poursuivre en fait ce tour d'horizon en fait d'Asphalte et puis de continuer à mêler en fait les aspects littéraires et puis certains aspects peut-être techniques, enfin sans trahir des secrets, mais on va faire une petite pause musicale en compagnie d'un choix justement de Tomaso Pinchot, en fait, donc dans la playlist de Chinachita, c'est Archivi. voilà, bah, c'était Numb d'Arkivi qui nous était offert par Tommaso Pinchot dans la playlist de China Chita, Mémoire de mon crime atroce, donc grâce aux éditions Asphalt.
Grande Flore Café. Hugues Robert.
Donc on poursuit en compagnie de Claire Duvivier des éditions Asphalt et on va voilà, poursuivre un autre auteur qui m'a beaucoup fasciné hein, dans ce catalogue qui commence à avoir une redoutable substance, c'est Leandro Avalos Blacha. Et là, j'ai sous les yeux Malicia, mais je voulais dire quelques mots en fait de son tout premier, en fait, qui est paru chez Asphalt, un roman assez étonnant qui s'appelait Beraza Chussets.
Tout à fait, oui.
Est-ce que tu veux dire comment s'est faite cette rencontre avec un roman quand même très particulier?
Ah, alors celui-là, Beraza Chussets, c'était via une amie, Judith Vernant, qui m'a rapporté le livre dans ses valises de retour de Buenos Aires. Elle avait rencontré l'auteur, nous a mis en relation, et effectivement, enfin, elle a présenté le livre à Judith Vernant en disant « Ouais, il y a des zombies, il y a une vieille zombie obèse qui mange des morts et qui garde les restes dans des tupperwares et qui discute avec des petites vieilles. » On était « Wow, qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais bon, avec un petit comme ça, c'est sûr, ça donne envie de jeter un coup d'œil. Et... comme ça nous faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Du coup, on a publié Beraza Chussets et on a suivi l'auteur, du coup, ensuite, pour un recueil de nouvelles qui s'appelle Côté court. Mm-hmm. Et enfin, pour Malicia, le fameux Malicia, qui est sa dernière parution en France.
Qui est un excellent roman, enfin, voilà, qui a... totalement différent de Beraza Chussets, mais qui a ce côté très particulier de Leandro Avalos Blacha, qui s'inscrit effectivement dans une espèce d'interstice entre des genres. Mm. On pourrait dire... Est-ce qu'il y a du fantastique? Est-ce qu'il y a effectivement du recyclage d'icônes pop culturelles comme les zombies, mais ou les zombies les zombies de Leandro Avalos Blacha ne ressemblent à aucun autre zombie que vous connaissez.
Mais je dirais que contrairement peut-être à Tommaso Pinchot et Antonio Chercineschi qui utilisent le genre comme une porte d'entrée pour un autre discours, hein, finalement, je dirais que Leandro il plonge dans le genre, il s'en empare et il l'utilise vraiment comme matière. Et effectivement, c'est une vision du genre qui est vraiment imprégnée d'esthétique un peu kitsch, de séries télé. De jeux télé, de carnaval, c'est très carnavalesque, très baroque. Et c'est vraiment cette exploration du kitsch argentin qui nous plaît beaucoup. C'est du too much permanent.
Alors, une des choses frappantes, en tout cas, moi qui. Parce que je sais que pour en avoir parlé avec d'autres éditeurs, enfin jeunes, donc qui ont à peine encore atteint leur dizaine d'années, que pour des maisons qui se créent, comme ça, de zéro, sans avoir récupéré un fonds, il y a toujours une ambition, j'imagine, c'est effectivement le passage en poche qui est à la fois un signe de succès et puis probablement, tu ne pourras nous en dire quelques mots, un soutien économique intéressant en fait pour une maison et qui reste souvent un graal pas facile à atteindre en fait. Et j'ai l'impression que Asphalt y réussit bien et ce presque depuis le début.
Bah, ça a pris quelques années quand même parce que je pense qu'il faut aussi atteindre une espèce de masse critique du catalogue où pour le coup on est bien identifié par les éditeurs poche, mais c'est vrai que pour nous c'est un atout, avoir un partenaire poche qui nous suit sur un auteur, ça nous permet de synchroniser les sorties, ça nous permet de bénéficier de leurs moyens de promotion aussi, ça permet aussi de faire inviter des auteurs en festival plus facilement, parce que c'est toujours mieux d'avoir à la fois des grands formats et des poches sur une table. C'est un vrai atout effectivement. Que ce soit, nous au début ça a surtout été les titres un peu plus polar, on va dire, qui ont été repris en poche. Maintenant, on équilibre un peu. On a aussi des titres hors polar. Alors, voilà, avec toujours ces étiquettes de genre qui me mettent un peu mal à l'aise. Mais effectivement, on a réussi à développer avec certains éditeurs poche des partenariats autour d'auteurs qui sont très enrichissants.
Mais notamment, enfin, y compris donc un livre aussi étonnant que Beraza Chussets, par exemple, avait été repris en poche, il me semble, assez vite, en collection de science-fiction.
En collection de science-fiction, oui.
Chez Folio SF. Et un titre aussi noir, quand même, que Moscou, a été repris, il me semble, en point policier.
Oui, c'était en point noir, la collection noire de points, où effectivement, ils avaient repris dans le même volume Belém et Moscou. C'était un pari pour eux aussi. Quoi. Là, pour le coup, ils nous ont vraiment fait confiance. Hein.
Donc, tu le mentionnais tout à l'heure, j'ai l'impression que pour ces auteurs, effectivement, qui ont un statut dans leur pays, mais que finalement, la reconnaissance que Asphalt leur apporte, justement, avec ce travail dans la durée...
Bon, après, c'est pas tout à fait la reconnaissance qu'Asphalt leur apporte, mais plutôt la reconnaissance d'être publié en France. Quoi, parce que voilà, enfin, c'est... restons modestes.
Oui, enfin, tout de même, enfin, je regardais sur quelques-uns dont les fiches Wikipédia en espagnol sont assez peu fournies en réalité, et où il y a quand même un côté découvreur amplificateur que joue Asphalt dans ces cas-là, y compris par rapport à l'édition américaine, où, par exemple, pour ces auteurs latino-américains-là, en tout cas.
Bah, je pense que pour des auteurs latino-américains, c'est plus facile d'être publié en France qu'aux États-Unis, parce que tout simplement, on publie plus de traductions en France. C'est quelque chose qui reste assez rare aux États-Unis, bien qu'il y ait des maisons qui se démènent vraiment pour faire fonctionner la traduction là-bas. Après, c'est vrai qu'il y a le côté, l'image un peu prestigieuse de la France qui joue. Le fait que pour pas mal d'auteurs sud-américains, les calendriers des pays invités au Salon du Livre nous ont permis de les faire venir en France. Pour eux, ça a été extrêmement gratifiant. Ça leur a permis aussi de faire des rencontres. Je sais qu'Antonio Cherchineski a pu ainsi être invité en résidence littéraire en Suisse, des choses comme ça. Donc effectivement, oui, ça peut leur servir de marchepied pour la suite de leur carrière, sans que ce soit nous, particulièrement nous-mêmes, qui avons orchestré tout ça. Mais effectivement, oui, ils ont pu saisir l'opportunité pour continuer leur carrière d'écrivain grâce à ça, pour la faire progresser.
Alors, je reviens sur, sur l'Amérique latine est un bon exemple, mais c'est évidemment pas le seul. Mais sur cette question d'être parti très fort finalement vers les traductions et d'avoir ajouté ensuite une partie française au catalogue, comme tu le disais tout à l'heure en souriant, c'est pas exactement peut-être comme ça que vous referiez, enfin si c'était de la planification stratégique, mais en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé. Et je me posais la question. Donc vous étiez deux. Il y a des domaines linguistiques et littéraires que vous maîtrisez, j'imagine, chacune ou toutes les deux. Mais on voit que peu à peu, le catalogue s'étoffe sur des langues qu'a priori, vous ne parlez pas.
Oui, c'est ça qui est assez étonnant, oui. En fait, on lit toutes les deux en anglais sans trop de problèmes. Estelle lit l'italien, moi je lis l'allemand. Finalement, on a fait très peu d'italien, très peu d'allemand. Bon, voilà. Et on a fait beaucoup d'hispanophones et de lusophones. Alors pourquoi ? Je pense qu'il y a ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'en Amérique du Sud, il y a une espèce de... Il n'y a pas la compartimentation, on va dire, un peu stricte entre les genres, et c'était ça qui nous plaisait. C'est une littérature dont on a fait connaissance à la création de la maison. Quand, à la première entrée littéraire, on avait publié Félix Bolzoné, un jeune auteur argentin, et Les Euphores de Buenos Aires, donc un classique de Roberto Arlt. Finalement, au bout d'un moment, plus on publie d'argentins, plus on connaît d'autres auteurs argentins, et au bout d'un moment, on commence à s'intéresser à d'autres pays d'Amérique du Sud, et c'est l'engrenage fatal. Alors il se trouve que on s'est retrouvé à publier pas mal d'auteurs hispanophones, alors que ni Estelle ni moi ne connaissions cette langue. On y a un peu remédié depuis. j'ai appris l'espagnol depuis. Effectivement, oui, c'est vraiment une ère linguistique qui est fascinante. Le fait aussi qu'il y ait énormément de pays qui parlent l'espagnol, ça permet aussi d'avoir beaucoup de traditions littéraires différentes. Enfin, je pense qu'il n'y a pas un bloc de littérature hispanophone, c'est plus varié que ça. C'est des territoires qui nous plaît beaucoup d'explorer. C'est le hasard des rencontres, le hasard des soumissions d'agents, le hasard des rencontres avec les traducteurs, des rencontres avec les auteurs eux-mêmes, qui ont mené, on va dire, à cette position de la littérature hispanophone au sein du catalogue. Oui.
Et on voit sur les différentes langues, alors c'est flagrant hein, sur le domaine hispanophone, mais qu'effectivement au fil des années, c'est constitué aussi une sorte de galaxie un peu de traducteurs et de traductrices Asphalt. Hein. Donc est-ce que tu peux nous dire justement un peu quel rôle ils jouent en dehors de leur rôle propre de traducteur, mais justement dans les orientations, dans leur force de proposition de texte éventuellement, comment tout ça fonctionne?
Pour certains c'est presque des collaborateurs de la maison, parce que par exemple Antonia Garcia Castro, qui est la traductrice de Roberto Arlt, nous avait proposé justement Les Euphores de Buenos Aires, donc qu'on avait publié sous sa traduction. Elle nous avait rédigé une présentation. Par la suite, on a publié un autre recueil de textes de Roberto Arlt qui n'existe pas en espagnol, qu'elle a assemblé elle-même, en fait. Elle a créé c'est les dernières nouvelles de Buenos Aires, c'est un recueil qu'elle a assemblé et présenté elle-même. Donc pour le coup, il y a eu un vrai travail de direction d'ouvrage de sa part, quoi. Bon voilà, il y a le cas d'Antonia, je pense aussi à Michel Guimond qui nous a présenté à la littérature de Guillermo Saccomano, par exemple. Oui, c'est des pour certaines, c'est vraiment des ambassadrices de leurs auteurs, quoi.
Alors, est-ce que y a des pays que pour l'instant vous n'avez pas abordés et qui sont un peu des rêves secrets, vous aimeriez bien, ou c'est pas comme ça que ça se passe, vous pensez pas pays, mais enfin voilà, plutôt rencontre de personnalités, enfin d'écriture. Mais est-ce qu'il y a quand même des pays où ça vous titille un peu en disant on aimerait bien en faire un?
C'est un peu une blague. À un moment, on s'est dit on va mettre une carte de l'Amérique du Sud et on va mettre un petit drapeau sur chaque pays quand on l'aura fait. On se dira bientôt le Paraguay. Mais non, en fait, ça se passe pas vraiment comme ça. En vrai, effectivement, c'est plus sur les textes qu'on se décide. Après, oui, des rêves secrets, je pense que tous les éditeurs en ont. C'est sûr qu'au bout d'un moment, on a peut-être aussi envie de casser certains murs et d'aller voir des aires linguistiques qu'on n'a pas encore visitées. Mais c'est vrai que moi, je n'aurais pas vraiment, on va dire, les capacités de juger des qualités d'un texte en japonais, par exemple, ou en russe. Et je connais peu de lecteurs du japonais, par exemple. Donc, on va dire le rêve secret, puis il y a à quoi bon. Enfin, sachant que je suis en train de créer une portion de mon catalogue qui est cohérente autour de la littérature hispanophone et lusophone, je peux aussi consacrer des ressources à essayer de défricher entre très gros guillemets une autre aire linguistique, mais en sachant que d'autres éditeurs le font très bien. Enfin, finalement, à moins qu'il y ait une rencontre extraordinaire qui se fasse autour d'un texte avec un traducteur, où là, pour le coup, ça peut aussi générer une envie. Ça avait été le cas pour Chien Fou, notre roman thaïlandais, où effectivement, ça a été la rencontre avec le texte via son traducteur, Marcel Barang, Chien Fou de Charles Kropiti. Mais effectivement, c'est pas non plus notre but en fait de faire tel ou tel pays comme un backpacker ferait le Népal ou des choses comme ça.
Non, mais c'est vrai que moi j'aimerais bien un jour voir un Russe chez Asphalt. Ça, je pense que ce serait
peut arriver.
Ouais. Non, mais je comprends parfaitement. Il y a effectivement, même si c'est pas comme ça, comme tu le décris, il y a une part de hasard qui crée un peu de cohérence a posteriori peut-être, mais c'est vrai qu'à un moment, à un moment il y a une espèce d'expertise en fait, hein, qui se met en place de facto.
Oui. Hein. Après voilà, ouais, c'est, on s'interdit rien, mais effectivement on a, alors peut-être aussi que c'est pas terrible d'avoir une zone de confort, parce que justement ça pousse, mais je sais pas, comme tu dis, il y a un côté expertise qui se crée aussi. Enfin, je m'auto-proclame pas experte en littérature sud-américaine, surtout pas, mais effectivement on a un peu on va dire nos habitudes, nos goûts, notre appréciation pour cette littérature-là et pour les auteurs qu'on a rencontrés là-bas.
Non, puis enfin, je crois qu'effectivement, sans qu'il y ait cette recherche de mettre des drapeaux sur des pays, ça j'en suis persuadé, mais c'est vrai qu'il y a des auteurs que vous avez découverts et que vous avez introduits dans le catalogue qui sont quand même de pays qu'on voit peu dans le catalogue français. Je pense au Venezuela, où il n'y a pas énormément d'auteurs. Cuba, on a beaucoup, mais pas nécessairement dans le style de ceux que vous avez choisi. La Colombie, qui a évidemment toute une tradition, mais pas nécessairement de ce que fait Asphalt, quoi. Hein. Et puis, non, mais c'est un Argentin de la zone des trois frontières, donc je pense à ça, son nom m'échappe, mais...
Leonardo Yola.
Leonardo Yola, tout à fait. Qui est assez spécial également, enfin, espèce de western rock complètement déjanté, mené réellement à 100 à l'heure, là, presque au propre. Et c'est vrai que, bon, les Argentins ne se ressemblent même pas entre eux, enfin, Il y a vraiment quelque chose de magnifique. Et effectivement, c'est donc en 9 ans à peine que quand même vous avez créé ce chose. Donc c'est un voilà. Est-ce que sans trahir de secret, donc est-ce qu'il y a des choses qu'avec 9 ans d'expérience vous auriez faites un peu différemment maintenant si vous deviez recommencer ou le repartir?
Oh, probablement plein, mais alors là, en même temps. Je crois que la vie est une suite d'expériences. Enfin, je disais ça en plaisantant tout à l'heure qu'on aurait fait plein d'autres choses différemment. Mais finalement, ce qui fait aussi le résultat, c'est le fait d'avoir tâtonné, c'est le fait d'avoir probablement fait des erreurs, beaucoup même. C'est le fait de pas avoir pris la voie la plus directe ou la plus facile. Donc finalement, non, en vrai, aucun regret. Mais
alors, par rapport à ça, et je sais que normalement, toute éditrice qui aime son métier, et je pense que ça s'entend que c'est vraiment le cas chez Asphalt en t'écoutant. Donc, tous les livres, en fait, on en est fiers. Mais est-ce qu'il y a un ou deux ou trois ou cinq de ces livres, mais donc pour des raisons diverses et variées, tu es encore plus fière, en fait,
que tu peux pas me demander ça.
Qu'ils aient existé.
C'est difficile, c'est difficile. Là, on vient de rééditer Shangri-La de Malcolm Knox, qui est un peu, oui, allez, allez, allons-y, qui est un peu un de nos romans cultes avec Estelle. Effectivement, c'est un livre pour lequel on a énormément d'affection. L'histoire d'un surfeur arrivé, on va dire, à 68 ans, il fait 120 kilos, il a des tocs, il vit chez sa vieille mère. Et en fait, une biographe arrive pour l'interviewer, on se rend compte que c'était l'un des premiers champions du monde de surf. Donc c'est vraiment toute une exploration de l'Australie des années 60, 70, 80, la naissance de la culture surf. Il y a quelque chose dans l'écriture qui est extraordinaire, parce que ce narrateur, il a des tocs, ça se voit dans la façon dont Malcolm Knox a déterminé sa voix. Donc c'est vraiment un roman, oui, qui nous suit depuis un moment. On l'a publié en 2012, donc la maison était encore toute jeune. Moi, Jusqu'à la bête de Timothée de Meillet, qui était paru à la rentrée 2017, c'est vraiment un roman. Alors, je ne devrais pas dire que j'étais fière de publier, parce que j'y suis pour rien. Moi, c'est l'auteur qui l'a écrit. Mais effectivement, c'est un roman que je suis vraiment, vraiment très heureuse d'avoir au catalogue. C'est un roman pour lequel j'ai beaucoup d'attachement. J'ai aussi beaucoup d'attachement pour Basse Saison de Guillermo Saccomanno, ouais, qui est
un
livre somme,
ouais.
un très très gros livre. Alors c'est jamais facile de réussir à motiver les lecteurs sur des très gros livres. Là, c'est vraiment un pavé, effectivement. Comme son nom l'indique, c'est Basse Saison, c'est l'histoire d'une basse saison dans une station balnéaire en Argentine, sur la côte atlantique. Tout ce qui se passe pendant la basse saison, les petites jalousies, les petites rivalités, les meurtres, les scènes de violence, tout explose en fait à la basse saison une fois que les touristes sont partis. Ça se lit, mais vraiment comme une série télé. C'est assez extraordinaire. Hein. C'est vraiment une somme de fragments. Chaque habitant de la ville est un personnage. Hein. Donc c'est vraiment mené de main de maître. Voilà, ça c'est vraiment les romans qui me viennent en tête comme ça, mais je me sens très coupable envers les autres. Maintenant.
Non, mais je crois que, enfin voilà, au-delà des précautions oratoires, enfin il faut le répéter. Enfin, la question est délicate, mais c'est effectivement un peu comme ça en top of mind des choses dont tu te souviens plus particulièrement. Le catalogue Asphalt est vraiment un superbe catalogue et. Voilà, je crois que toute lectrice ou tout lecteur qui se le plonge dans ce catalogue, après, effectivement, chacun va avoir ses goûts un peu particuliers, mais il y a une puissance qui s'en dégage, en fait, au fil des années, qui est vraiment pas si fréquente. Hein, et puis, avec ce côté un peu miraculeux, c'est que ça arrive... voilà, il y a un état d'esprit qui n'est pas facile de définir, mais qu'on sent bien qui est présent, c'est-à-dire qui caractérise les romans chez Asphalt, alors même qu'il y a une énorme diversité justement de lieux, de géographie, de types, de raccords au genre ou justement de mépris des frontières. Il y a tout à quelque chose et pourtant qu'on comprenne effectivement un roman qui se passe dans un abattoir comme celui de Timothy de Meillet, qu'on prenne un roman qui se passe dans un club sportif comme Sporting Club, ou dans un roman qui se passe dans une ville balnéaire, voilà. Et il y a vraiment, à chaque fois on se dit, bah oui, ça, c'est bien normal que ce soit chez Asphalt, ce que nous rappelle en plus la playlist juste sur le rabat, en fait, de troisième de couverture. Et donc vraiment, ben voilà, moi je vous dis, c'est une des plus belles collections de l'édition contemporaine. Elle n'a que 9 ans, on a l'impression qu'elle est installée dans le paysage depuis des années désormais.
Merci.
On en trouve donc assez souvent, pour ceux qui hésitent parfois effectivement à se procurer un grand format, même s'il faut le faire, parce que c'est comme ça que vit l'édition, mais on en trouve en poche de plus en plus, donc par des partenaires et des éditeurs de poche qui sont intéressés par ce catalogue. Donc voilà, vraiment, longue vie à Asphalt. Hein,
merci beaucoup.
Et merci beaucoup, Claire, donc, d'avoir accepté de nous rejoindre dans cette émission. Et on va rester en compagnie d'auteurs, en fait, d'une musique, pour terminer, choisie par un des auteurs. Donc c'est une musique choisie par Eddie Raugusto pour son Nid Vipère, donc, qui était son troisième roman chez Asphalt. Une musique quand même très connue, mais très belle, qui est de Hills, Novocaine for the Soul.
Guess who's living here with the great undead? It's paint by numbers, life is fucking with my head once again. I
littérature et bière glacée.
On lit, on voyage, on revient.
Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
Grande Fleur Café par Hugues Robert.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.